Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le 25 novembre, demain donc, à 18h, retrait aux positions initiales pour le M23. Si le M23 ne se retire pas, les chefs d'État de l'EAC pourront autoriser l'usage de la force. C'est l'essentiel du communiqué final du sommet de Luanda qui s'est tenu hier mercredi sous la direction du président angolais João Lourenço. Modernisation du poste frontalier Ruzizi 2 à Bukavu dans le sud Kivu. Les travaux ont été lancés hier mercredi. C'est un projet de l'Union européenne qui vise à renforcer la sécurité aux frontières et de promouvoir le commerce dans la sous-région. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Dr Colin Bia Vico Wilbar, chef de bureau OMS Kisangani. Il nous parlera de la première phase de la campagne de vaccination dénommée intensification périodique des vaccinations systématiques des enfants effectuées dans le Bazuélé. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Cessez le feu le 25 novembre à 18h demain donc. Retrait aux positions initiales. Si le M23 ne se retire pas, les chefs d'État de l'EAC pourront autoriser l'usage de la force. C'est l'une des recommandations issues du sommet de Luanda qui s'est tenu hier mercredi sous la direction du président angolais João Lourenço. On prit part à ces sommets le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi, le Burundais Évariste Ndayishimiye, le Rwandais Paul Kagame s'est fait représenter par Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères, ainsi que l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta. D'autres détails avec Honoré Missenga Kalala.
Le communiqué final demande aussi le respect absolu du prescrit des communiqués des conclaves des chefs d'État de l'EAC du 21 avril et du 20 juin 2022 se rapportant au processus de Nairobi, de la feuille de route de Luanda du 6 juillet 2022 et des conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'État-major généraux des forces armées de l'EAC, Bujumbura, 8 novembre 2022. Les participants à cette réunion ont aussi exigé la cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'est de la RDC et la région. Ils ont aussi demandé le désarmement et le cantonnement du M23 en territoire congolais sous contrôle des FARDC, de la force régionale et du mécanisme ad hoc de vérification avec la collaboration de la MONUSCO. Les chefs d'État ont demandé que la FARDC, la force régionale et les chefs d'État-major général CGS de la force régionale EAC, en collaboration avec la MONUSCO, étudie toutes les questions liées au désarmement et au cantonnement des éléments du M23 et leur soumette des propositions à leur prochain mini-sommet, rapporte le communiqué final. Les signataires du communiqué final ont aussi recommandé la reprise du dialogue Rwanda-RDC devant mener à la normalisation des relations diplomatiques.
Pendant ces temps, sur terrain au Nord Kivu, une accalmie est signalée ce jeudi matin dans le groupement Bambo et Tongo, chefferie de Bwitu, à l'ouest du territoire de Rutshuru. C'est après des affrontements violents qui ont opposé les rebelles du M23 au FARDC et certaines milices locales dans cette entité. Plusieurs cas d'exaction contre les civils attribués au M23 sont signalés dans la zone. Entre autres, nos sources locales parlent du chef du village des Kishiché qui aurait été tué hier mercredi. Le point avec Innocent Fadili.
Le village de Kishiché, dans le groupement des Bambo, est aussi occupé par les rebelles du M23 après les affrontements hier mercredi contre les FARDC et certaines milices locales, affirment les sources civiles locales. Selon quelques notables locaux joints dans l'entité, au moins 46 jeunes ont été arrêtés par les rebelles au motif qu'ils ne disposent pas de cartes d'identité au niveau des Bambo et Kishiché. Jusqu'ici, ils restent introuvables. Ces sources ajoutent aussi que les rebelles auraient aussi tué le chef du village de Kishiché. Dans les groupements voisins des Tongo, des violents affrontements ont été signalés vers les limites entre cette entité et le groupement des Bichoucha. Dans cette partie, nos sources parlent d'une prise des deux villages Rusekera et Muhindo par les rebelles du M23. Du coup, les groupements des Bambo, Bukombo et Bichoucha se vident d'une partie de leurs habitants. Ceux des Bambo prennent la direction nord de Kibirizi, alors que ceux des Bukoma, Birambizo et Bichoucha continuent d'arriver à masse à Kichanga, Mueso et les autres vont vers Nyamituga. La crainte de voir l'ennemi avancer vers Bichoucha et Bachali du côté sud-ouest des Tongo ou vers Nyanzale et Kibirizi, côté nord des Bambo, continue à inquiéter, disent nos sources.
Entre-temps, à Goma, il s'observe une forte mobilisation des différents groupes sociaux et des individus touchés par la misère que traverse la population de Rutshuru, déplacée à Kanyaruchinya, et qui s'organise pour leur apporter une assistance. Ce sont notamment les églises et autres bénévoles, sans oublier les familles d'accueil qui sont nombreuses à héberger les déplacés à Nyiragongo et dans la ville de Goma. Sifa Magour revient sur cet élan de solidarité observé depuis l'arrivée massive des déplacés dans les Nyiragongo. Suivez.
Nous sommes à la paroisse de Kanyaruchinya, l'un des sites qui accueille un grand nombre de déplacés. Nous y avons trouvé hier mercredi, par exemple, un prêtre diocésain de Goma. Celui-ci déclare que lors d'une visite pastorale dans le milieu, la situation humanitaire qu'il a observée l'a fortement interpellé. L'abbé Gabriel Rangi a remis des bâches à au moins 150 familles démunies pour leur permettre de se faire un abri pendant cette période des plus abondantes.
Et les besoins sont vraiment énormes. Il y a d'abord la promiscuité qui risque de provoquer certaines maladies. Il y a les besoins en assainissement, en nourriture, les besoins en médicaments, les besoins en habillement. Et il y a les mamans aussi qui sont enceintes comme là, et il y en a aussi qui mettent au monde dans des conditions qu'on ne peut pas décrire.
Les besoins sont énormes et plusieurs familles ne parviennent pas encore à se faire identifier et n'ont reçu aucune assistance des ONG ou du gouvernement. L'une d'elles témoigne cette situation avec amertume. Quand nous avons fui, je me suis retrouvée avec des personnes que je ne connaissais pas. Maintenant, tous les agents ici, quand je me présente, on me dit qu'on ne me connaît pas. C'est ainsi que je vis difficilement. Des milliers de familles déplacées traversent un moment difficile dans les sites déplacés à cause des mauvaises conditions hygiéniques et des logements qui les exposent aux intempéries, sans oublier l'insuffisance de la nourriture. Goma, Sifa Magour, Radio Okapi.
En Ituri, 14 personnes, dont la majorité sont des enfants, sont mortes depuis les débuts de ce mois de novembre au site des déplacés de Djaïba dans le territoire de Djougou. Ce qui porte à 44 le nombre de décès enregistrés depuis le mois de septembre dernier, affirme le président du site. Ces déplacés disent n'avoir jamais reçu une assistance alimentaire depuis leur installation dans ce site. Ils lancent un appel au gouvernement pour éviter des morts en cascade face aux conditions de vie difficiles. Isaac Remoyope.
La situation humanitaire se détériore chaque jour aussi des déplacés de Djaïba à environ 5 km du centre commercial de Fataki dans les territoires de Djougou. Ces déplacés estimés à environ 10 000 personnes affirment n'avoir jamais reçu une assistance depuis plus d'une année. Cela malgré tous les rapports soumis aux humanitaires qui ont déjà eu à faire des évaluations mais sans résultat. Conséquence, le nombre de morts ne cesse de croître dans ces sites. Pour le seul mois de novembre, le comité a enregistré 14 décès dus à la malnutrition et au manque pour de nombreux déplacés des moyens de se faire soigner. Selon eux, toutes les initiatives pour la survie, notamment des travaux journaliers dans les champs des autochtones et la mendicité, ont montré leurs limites. Si rien n'est fait par les gouvernements et les humanitaires, ce sera le pire dans les prochains jours, a déclaré Dédoné Kbadiou, président des sites.
Les gens meurent comme des poules. Quand il n'y a rien à manger, c'est horrible. Ces humanitaires sont tous informés qu'à Djaïba, il y a et ça ne va pas. Nous avons fait des rapports et des rapports là-dessus à maintes reprises. Sans résultat. Un jour, vous viendrez que le site est fini parce que tout le monde sera décédé, il n'y aura plus la vie ici.
Ces déplacés se disent abandonnés par les associations caritatives pendant que d'autres reçoivent régulièrement de l'assistance humanitaire dans les territoires des Djougou. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, dans les territoires de Beni, le bilan de la double attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'ADEF à Mamové dans les groupements de Batangimbao lundi et mardi est revu à la hausse. Il est passé de 16 à 25 personnes tuées dans différents villages situés près de la localité de Mamové à la limite entre les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Selon le président de la société civile de Mamové, Kinos Katuo, les 9 autres corps ont été découverts hier soir dans la brousse aux alentours du centre de Mamové. Il s'inquiète en voyant cette résurgence des ADEF dans cette zone où, selon lui, la population commençait déjà à regagner leur domicile. Et puis, la guerre dans le Nord Kivu est un problème qui dérange la population congolaise dans l'ensemble du pays. À Kinshasa, la majorité des personnes que nous avons rencontrées disent être préoccupées par la guerre imposée par les voisins et aussi par la situation des milliers de Congolais obligés de fuir leur village et de vivre dans la précarité. Elle propose aussi des pistes de solutions. Pauline Masirika nous en dit plus dans ce reportage.
Entre mars, déclarations et autres collectes de biens et fonds, chacun essaie de son mieux d'exprimer sa frustration et sa révolte face à cette énième guerre dans l'est de la RDC, mais aussi son soutien aux FARDC et aux populations meurtries. D'autres le font par des prières pour une paix durable dans le pays.
Nous avions marché pour montrer notre solidarité aux compatriotes qui meurent dans l'est de notre pays, mais aussi montrer notre soutien au FARDC.
Nous sommes présentement en retraite à Luzizila pour prier pour le pays. Ceux qui souffrent là-bas, ce sont des populations congolaises. Cela nous fait très mal.
Le Kinois a rencontré son intransigeant sur l'intégrité territoriale du pays. Et pour cela, ce Kinois souhaite que la RDC s'organise militairement pour dissuader, même à l'avenir, toute idée d'attaque ou d'exploitation de son sol par des pays voisins.
Nous devons décourager les armées rwandaises et les FNLA. Comme nous avons mobilisé les enfants, nous avons acheté des armes, nous devons aller droit au but.
Il fallait exiger l'expulsion de l'ambassadeur ougandais et le retrait de la République démocratique du Congo de EAC.
Notons qu'un sursaut d'orgueil se fait voir dans le chef de beaucoup de jeunes Kinois et ceux d'autres provinces pour s'enrôler dans l'armée afin de défendre leur patrie.
Et puis, le commissaire provincial ad intérim de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga met une fois de plus en garde les civils qui continuent à faire usage des effets de la police et de l'armée. C'est notamment la tenue, les bottines, des bérets et autres indices de la police nationale et des forces armées de la RDC. Le colonel Ilunga Katwamba Norbert indique que cette instruction avait été prise par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur au mois de juin dernier. Pour cela, il précise que les récalcitrants s'exposeront à la rigueur de la loi. D'autres détails avec Jean Gandou.
Ce rappel a été fait par le commissaire provincial ad intérim de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga. Dans son communiqué lu par le porte-parole de la PNC dans la province, les jeunes du parti politique UNAFEC, Union nationale des fédéralistes du Congo, sont particulièrement pointés du doigt. Major Charles Espérant Tobin Luamba.
Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga attire particulièrement l'attention des jeunes de l'UNAFEC que cette mesure reste de stricte application jusqu'à ces jours.
Pour le président fédéral de ce parti politique, la décision en elle-même n'est pas mauvaise. Mais Hervé Mwamba se demande pourquoi la police indexe seulement les jeunes de son parti.
La décision d'interdiction de porter les indices militaires par les civils et notamment les jeunes des partis politiques est tout à fait légitime. Or, savons tous que ce n'est pas seulement les jeunes de l'UNAFEC qui s'habillent en uniforme. C'est quasi tous les jeunes des partis politiques, si pas seulement du Haut-Katanga, mais de la RDC, qui ont adopté ce style. On dirait donc qu'il y aurait un problème particulier contre la UNAFEC. L'UNAFEC étant un parti conformiste aux lois et décisions de l'État, les responsables du parti ont pris acte et sensibilisent les jeunes pour se conformer à cette décision, avec grand espoir que la décision ne sera pas sectaire, mais générale.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Nous l'avons dit au sommaire, au Sud Kivu, lancement ce mercredi à Bukavu des travaux de modernisation du poste frontalier Ruzizi 2, un projet de l'Union européenne qui vise à renforcer la sécurité aux frontières et de promouvoir le commerce dans la sous-région. Les travaux consistent en la construction des bâtiments administratifs modernes et la rénovation d'autres infrastructures douanières. Emmanuel Elamejou Akabedi.
La rénovation du poste frontalier Ruzizi 2 à arrêt unique consiste à construire un bâtiment administratif moderne pour abriter seulement les services habilités à fonctionner à la frontière. Aussi, la construction des entrepôts modernes de la DGDA. L'Organisation internationale des migrations OIM évoque ici les avantages au bénéfice des petits commerçants transfrontaliers.
Il faut que la population comprenne l'impact économique que cette poste frontière moderne aura avec les relations régionales poste et frontières, mais qui c'est surtout pour améliorer la vie et le bien-être de la population du Sud Kivu et de la région, mettre en œuvre aussi des activités en faveur des petits commerçants qui sont l'âme même de ces postes frontières.
Les coups d'envoi des travaux a été donné par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidjakassi, rassure du soutien de son gouvernement à ce projet.
En ce qui nous concerne, mon gouvernement provincial, nous rassurons tous les intervenants que nous ne ménagerons aucun effort pour apporter notre soutien indéfectible en guise d'atteinte des objectifs assignés à ces projets et demandons à toute la population du Sud Kivu de s'approprier ce projet très important pour notre province.
La durée des travaux est de 10 mois pour un financement de l'Union européenne de l'ordre de 10 millions de dollars américains. Emmanuel Elamijoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Autre nouvelle, lutte contre les antivaleurs en milieu scolaire dans la province éducationnelle Kwilu 1, dont le siège se trouve à Bandounouville. Au moins 4 inspecteurs du secondaire et 3 chefs d'établissement sont suspendus par l'inspecteur principal provincial IPP Jean-Pierre Kasunga Moudiaï. Ils sont accusés de certaines antivaleurs, entre autres le monnayage de contrôle des dossiers des élèves finalistes du secondaire pour les autres. Alors, pour l'IPP, cette mesure est prise pour mettre en application les instructions du ministre national de l'EPST, Tony Mwaba, qui mène la lutte contre les antivaleurs en milieu scolaire. Le point avec Irène Mboma.
Parmi ces 4 inspecteurs de l'enseignement secondaire de la province éducationnelle Kwilu 1, dont un itinérant de Bagata 1 et 3 chefs de poule, 3 sont suspendus pour monnayage des contrôles des dossiers des élèves candidats à l'examen d'État. L'inspecteur principal provincial, IPP de cette entité, indique que certains d'entre eux ont exigé par exemple une somme de 25 000 francs congolais par élève, alors qu'il s'agit d'une activité de routine qui doit se faire gratuitement. Et le quatrième a, quant à lui, élaboré et mis à vendre auprès des chefs d'établissement un outil de formation sans l'aval de la hiérarchie. S'agissant de ces 3 préfets des études également suspendus, ils ont fixé les frais scolaires sans avoir réuni au préalable l'Assemblée générale des parents. Jean-Pierre Kasunga Moudiaï et l'IPP du Kwilu 1.
Les instructions sont claires à ce sujet. Nous sensibilisons et les inspecteurs et les chefs d'établissement à ce sujet. Mais il y en a qui ne peuvent pas les appliquer. Et nous, nous appliquons à la lettre les instructions de son Excellence le ministre de l'EPST, de lutter contre les antivaleurs. Nous les avons suspendus.
Jean-Pierre Kasunga invite les autres inspecteurs et gestionnaires des écoles d'en tirer les leçons pour ne pas tomber dans ces filets. Tous nos efforts pour avoir la réaction de ces personnes sanctionnées sont restés vains. Irène Mboma, Bandounouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Une bagarre entre députés a éclaté mercredi au sein du Parlement sierra-léonais au cours d'un débat sur une proposition de modification du système électoral à 6 mois de la présidentielle. La commission électorale a recommandé un scrutin à la proportionnelle qui s'appliquerait aux élections municipales et législatives de juin 2023, mais pas à la présidentielle organisée le même jour.
L'invité.
Dans la province du Bazuele, une délégation du sous-bureau de l'OMS Kisangani a séjourné la semaine dernière. Cette visite est intervenue au moment où la division provinciale de la santé venait de clôturer la première phase de la campagne de vaccination dénommée intensification périodique des vaccinations systématiques des enfants. Quel a été l'objectif de cette mission et quelle appréciation l'OMS fait-elle de l'organisation de cette première phase? Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal le docteur Kolingbia Viko Wilbar, chef de bureau OMS Kisangani. Il s'entretient ici avec Jacques Moukonkole. Suivez.
Docteur Viko, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'effectuer une mission dans le Bas-Ouélé. En quoi a-t-elle consisté?
La province du Bas-Ouélé est l'une des provinces de la RDC qui compte le plus d'enfants non ou insuffisamment vaccinés et de ce fait éligibles à l'approche d'intensification périodique de vaccination systématique, IPVS en sigle, pour récupérer en 3 phases tous ces enfants. Le contexte de Bas-Ouélé est un peu particulier car le vaccin pour ces IPVS sont arrivés juste au moment où la chambre froide est tombée en panne et la province se préparait en même temps à lancer le deuxième passage de vaccination contre la COVID-19 dans toutes ses 11 zones de santé. Voilà un peu de façon ramassée les conditions dans lesquelles la première phase des IPVS devrait être organisée. Il était donc plus que normal de venir évaluer, voire documenter comment la province a pu réussir à lancer l'IPVS dans ces conditions.
Docteur Viko, la moyenne de couverture par antigène tourne autour de 31%. Êtes-vous satisfait ou non?
En tenant compte du contexte dans lequel cette IPVS est organisée, mon appréciation ne peut être que bonne. Car en lieu et place de laisser les vaccins se détériorer parce que la chambre froide est en panne, le management provincial a mis en profit la campagne de vaccination contre la COVID pour mettre à la disposition des zones de santé des vaccins de l'IPVS. La moyenne provinciale de couverture en antigène phare autour de 31%. Oui, mais c'est plus que ce qu'on s'attendait. Hein. Il faut toujours vous référer au contexte d'organisation de cette première phase. Pour votre information, ces données sont encore partielles car la province organise à ce moment la campagne campagne de vaccination contre la polio et les équipes de centres de santé récupèrent en même temps les enfants en conflit avec le calendrier vaccinal. Donc, ces couvertures seront revues à la hausse.
Certains enfants n'ont pas été atteints à la première phase. Quel est l'essor qui leur est réservé?
PVS s'organise en 3 passages. Comme nous venons de terminer la première passage, il reste 2 autres qui vont suivre dans un intervalle de 1 mois l'une de l'autre. Mais n'oubliez pas qu'en dehors de vagues d'intensification de vaccination, il y a aussi la vaccination des routines qui offre également l'opportunité aux parents de faire vacciner leurs enfants en conflit avec le calendrier vaccinal.
Docteur Vico, à propos justement de ces 2 dernières phases, vous avez plaidé auprès du gouverneur intérimaire pour son implication ou son accompagnement. Quel genre d'appui attendez-vous de lui concrètement?
Bon, la stratégie utilisée pour atteindre les enfants pendant les IPVS est différente de celle utilisée pour la campagne de polio, par exemple, qui utilise la stratégie porte-à-porte pour atteindre les enfants cibles. Cependant, les IPVS utilisent les stratégies fixes avancées et mobiles. C'est-à-dire si en stratégie porte-à-porte, les équipes de vaccination vont vers les ménages pour vacciner les enfants cibles, en IPVS, ce sont plutôt les parents qui amènent leurs enfants vers les sites de vaccination érigés à cet effet. Comme la cible est de 0 à 23 mois, un parent peut facilement avoir plus de 2 enfants à faire vacciner et parcourir pour cela une certaine distance pour accéder à un site. Vous comprenez avec moi qu'il faut une forte mobilisation pour que ces parents se décident de coopérer. Voilà pourquoi l'implication de l'autorité au plus haut niveau de la province est requise. Notre civilité auprès de l'autorité provinciale visait 3 objectifs. Primo, conscientiser l'autorité sur l'existence dans sa province de beaucoup d'enfants en conflit avec le calendrier vaccinal dont on doit récupérer à tout prix pour prévenir les épidémies éventuelles. Segundo, lui demander de procéder au lancement solennel de ces 2 phases d'IPVS à l'instar des campagnes de vaccination contre la polio, la rougeole et que sais-je encore, et cela à tous les niveaux. Au niveau provincial, que la campagne soit lancée par lui-même, au niveau des zones de santé, voire dans toutes les aires de santé, par les autorités administratives se trouvant au chef-lieu de ces entités. Enfin, tertio, mobiliser les ressources additives pour augmenter le nombre de sites par aire de santé afin de rendre plus accessibles les services à la communauté, réduisant ainsi la distance à parcourir par les parents pour atteindre les sites de vaccination.
Certaines difficultés ont été enregistrées lors de la première phase. Que peut faire l'OMS pour les surmonter afin d'atteindre les résultats escomptés pendant les 2 dernières phases?
Bon, nous avons pris bonne note de toutes les difficultés enregistrées au cours de cette première expérience d'IPVS dans le Bas-Uele. Je ne peux pas les détailler ici devant la presse. Ce que nous allons faire, je dis nous, c'est parce qu'il y a 2 parties qui gèrent tout ça. Il y a la partie gouvernementale d'abord et les partenaires. Pour que les 2 dernières phases se déroulent en beauté, mais dans notre rapport se trouvent les recommandations pertinentes formulées, sachant que les partenaires viennent toujours en appui à la partie gouvernementale.
Docteur Vico, merci.
C'est moi de vous remercier.